RMC Poker Show avec Winamax, site de poker en ligne.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Vous écoutez
RMC. RMC Poker Show.
Daniel Riolo et Mindy.
Salut à tous les amis, bienvenue dans le RMC Poker Show. Salut Mundir.
Salut mon Daniel, j'espère que tu vas bien. Je sais pas pourquoi je rigole, mais peut-être parce que je suis un peu content aussi. Vegas approche, je give up un petit peu le poker. Et puis, je suis très content d'être avec toi. Hein,
comme ça, voilà. Je give up un peu le poker, ça veut dire que t'as pas passé des bonnes journées récemment, toi.
Je peux te dire que
t'as besoin d'un petit repos.
J'ai besoin, tu vois, j'ai passé une semaine.
Hey, mais dis-moi, le départ, il est encore dans 10 jours. Hein. Tu vas tenir 10 jours sans jouer.
Ah, bah oui,
ça veut dire que t'as pris des bonnes claques alors.
Ah, ouais, j'ai pris des bonnes gifles, une belle fessée. Je peux te dire que j'ai fini tout bleu. Et en gros, je rentre dans un jeûne, un peu comme un Tibétain. Et puis voilà, on va se livrer tout ça.
Vegas a déjà commencé.
Bah ouais.
Et pas depuis peu, hein, parce qu'on en est déjà.
Ça avance vite, hein.
20, plus de 30 events, c'est déjà incroyable.
C'est incroyable.
Les tournois défilent, les bons résultats également pour certains joueurs. Le premier d'entre eux, on va l'accueillir dans une poignée de secondes, Alex Réard.
Oui, un copain.
Qui lui, on est déjà à 5 ITM. Évidemment, Vegas sera au cœur de l'émission, comme d'habitude dans cette période de championnat du monde. Et les invités vont se succéder. Slimane Taxwit, tu connais?
Bah, oui, il fait du tennis, un grand coach, il paraît. Quand j'ai reçu la trame, je suis parti voir ce qu'il faisait.
La trame, le sommaire, tu veux dire?
Ouais, la trame, le sommaire.
Oui, c'est un coach de tennis, c'est le coach notamment de Barbara Gracheva qu'on a vu à Roland-Garros récemment. Elle a fait 8e de finale, cette jeune naturalisée depuis un an. Et lui, il est grand fan de poker, comme beaucoup de coachs de tennis. D'ailleurs, tu te souviens de Pierre Gauthier?
Bien sûr. Reçu.
Voilà, il va nous parler de cette passion. Maxime Arnoux, lui, il est à Vegas, journaliste Wina. On va faire un petit bilan avec lui. Des tournois en cours et de tout ce qu'il s'est passé. Évidemment, il y a des belles histoires comme d'hab. Et on va terminer avec l'histoire hallucinante.
Ah, mais là, c'est la lampe d'Aladin. La lampe d'Aladin. Ça, je. Franchement.
Alors, on va peu déflorer parce que l'histoire est folle. Donc, il s'appelle Romain.
Ouais,
il a gagné un expresso jackpot à 1 million.
Ouais, un expresso nitro.
Mais, alors, ça, c'est déjà arrivé. On a déjà reçu.
Bien sûr.
Ils sont tombés sur la table dorée. Mais son histoire à lui, elle est encore plus folle. On n'en dit pas plus. À tout à l'heure pour ça.
RMC met carte sur table.
C'est le RMC Poker Show.
Mais évidemment, avant de dérouler tout ce sommaire, on est obligé de commencer par cette partie et cette info. Ça vient juste de se terminer, enfin il y a quelques heures. Yo Viral, runner-up de l'event 34, hein, 2 500 $ freeze-out. Il y avait 1267 joueurs au départ de ce tournoi. Yo Viral termine deuxième pour un petit peu moins de 300 000 $. Une énorme performance, c'est vrai. Mais j'imagine qu'on va aller tout de suite à Vegas et qu'on va retrouver un Yo Viral forcément déçu. Salut Yo, comment ça va?
Salut mon Daniel, ça va? On sort du resto avec les quelques Français qui sont restés jusqu'au bout de ce heads-up interminable.
Quel resto tu étais? Fais-moi rêver.
Écoute, là, la nuit à Vegas, il n'y a pas grand-chose ouvert, hein, mine de rien. Pourtant, Vegas, c'est une ville de la nuit, mais il y a le Grand Luxe Café qui est ouvert toute la nuit au Venetian.
Mm-hmm.
Donc voilà, c'est OK.
Bon, j'allais te demander comment s'est passée la digestion du HU et non pas du repas que tu viens de faire. Parlons de ça, parlons de cet événement. Le bracelet, bon, c'est quelque chose après lequel tu cours depuis longtemps. Rappelons donc que cet event 34, c'était 439 000 $, quelque chose comme ça à la gagne, plus un bracelet. Antonio Galliana, ton adversaire, lui aussi courait après son premier bracelet. Je sais jamais comment demander ça, parce que quand on fait runner-up d'un tournoi, c'est forcément génial, évidemment, quand on a éliminé 1267 joueurs, donc en l'occurrence 1265. Comment se passent les heures qui suivent? On y repense, on ressasse, on a le cerveau en ébullition. Comment sont les sentiments en ce moment?
Moi, je suis évidemment déçu parce que c'est la troisième fois que je fais deuxième d'un WSOP, donc la troisième fois que je passe à côté du bracelet. Je ne jouais pas pour l'argent, mais pour le bracelet. Du coup, même l'argent ne réconforte pas, si tu veux, le truc. Mais voilà, après... Si, mais il n'y a pas mort d'homme.
Non, voilà, bien sûr, bien sûr.
Je suis un peu déçu, bien sûr. Ouais. C'est
vrai que ces derniers temps, quand tu venais dans le RMC Poker Show, tu nous parlais beaucoup de cash game, de ces parties haute limite que tu fais. Ça faisait un petit moment que tu n'avais pas fait de tournoi, mais on sait à quel point ça te tient à cœur d'aller à Vegas pour ces championnats du monde. Et là, qu'est-ce qui t'a donné envie de te remettre au tournoi? C'est vraiment cette quête, au final. C'est cette quête du bracelet WSOP.
Je fais pas de quête parce que comme je te dis, sinon je ferais tous les tournois des WSOP chaque année.
Ouais.
J'en fais quelques-uns, tu vois, j'en fais entre, je sais pas, moi j'en fais 8-10 en général, tu vois.
D'accord.
Donc c'est plus en mode pour changer la routine du cash game que je fais des WSOP, même si évidemment parmi tous les tournois qui existent au monde, selon moi, c'est les plus prestigieux. Et c'est des tournois que j'ai le plus envie de gagner. Donc voilà, si je devais faire la classification parmi les différents tournois que je joue, je dirais que World Series of Poker, c'est vraiment ce qui est le plus prestigieux, ce que je préfère. Et voilà, ils ont créé quelque chose de très fort, une très grosse marque. Et voilà, Grégory Chauchon peut être fier puisque c'est lui le directeur, entre autres, le directeur adjoint du WSOP.
Yo, est-ce que tu connaissais ton adversaire, Antonio Galliana, le gars qui était face à toi pour ce HU?
Je l'avais déjà vu. Il est pote avec tout le groupe des Espagnols, des pros espagnols. Donc, on savait que c'était un pro. On savait que c'était. Quand je dis on, je parlais de Romain et moi parce qu'il y avait Romain Lewis qui était à ma table.
Oui, Romain s'est classé cinquième.
Ouais, voilà, exactement. Il n'a pas eu de chance. Mm-hmm. Et il a perdu un énorme flip contre justement mon adversaire. Mm-hmm. Un flip à dame suité contre paire de 6 pour une très grosse partie des jetons. Là, c'était tout simplement pour un tiers des jetons en jeu à 5 left. Ouais,
effectivement.
Donc, voilà. Et du coup, Romain et moi, quand on discutait de ce gars-là, oui, on avait compris que c'était, en tout cas, plutôt un bon joueur. Et après, après voilà, il l'a prouvé. Hein, il a fait un coup d'anthologie que t'as peut-être vu passer.
Oui, oui, je voulais. On va en parler dans deux minutes parce que effectivement, ça m'a retourné ce coup. Donc, je voulais vraiment en parler avec toi. Je voulais juste des impressions générales avant de rentrer dans ce coup-là, parce que effectivement, mine de rien, même si tu l'as perdu, je pense que tu vas rester dans les annales comme ayant disputé l'un des coups les plus légendaires des WSOP. Donc, Galliana. Alors, je reviens sur le HU de façon plus globale. Est-ce qu'il y a des moments dans ce HU où tu nourris quelques regrets ou tu te dis j'aurais peut-être pu faire ci ou faire ça, être plus agressif à tel et tel moment? Ta gestion globale du HU, comment tu la juges?
Plutôt bonne. J'ai raté un petit bluff à un moment donné avec, il me semble, avec 3 et 4 de carreaux. J'ai raté mon flush draw et ils ont bluffé le coup. J'ai pas voulu le faire parce que quelque chose me disait qu'il n'avait pas foldé ici, mais en fait il a quand même des bluffs lui-même, donc j'aurais pu lui faire folder ses bluffs. Ah, bref, il fallait quand même que je bluffe ce spot-là, je ne l'ai pas fait. Mais ce n'était pas un énorme coup. Mais globalement, dans l'ensemble, très satisfait. À part, du coup, enfin, à part. Pas à part, c'est juste que, voilà, effectivement, j'ai perdu le gros pot. On s'est disputé, qui fait le tour du web, là.
Ouais.
Mais voilà, tu veux qu'on en parle ou tu veux attendre?
Non, il ne faut plus attendre parce que ce coup-là, il est absolument incroyable. Je crois, alors en plus, c'est malheureux, mais moi, en tant que spectateur, la fin, je n'ai pas tout de suite compris ce qui s'était passé. Mais on va le dérouler depuis. T'imagines, moi, le regardant, j'étais plein d'émotions, j'avais le cœur qui battait pour toi. Alors, imagine, je ne sais même pas comment tu as pu maîtriser ce qui s'est passé.
Tu l'as regardé en live?
Non, je l'ai regardé ce matin, mais même en différé, ça m'a mis dans un état assez fou. Donc, c'est une main où Galliana, tu m'arrêtes dès que je me trompe, en grosse blinde, il a 7 et 5, et toi, tu as valet 2, et ça fait un check-check.
Ça,
tu limp, puis check. Et sur le board, nous avons le flop, pardon, nous avons un 10, un 6 et un 3 de trèfle.
Ouais.
Ok, check-check. 8 de trèfle.
Ouais.
Check-check.
Ouais.
Et là, l'histoire va commencer. Écoute, je vais te laisser la raconter et puis je te poserai à chaque fois les questions sur qu'est-ce que tu as voulu faire à ce moment-là. Donc, on est river, il n'y a que des trèfles et ni l'un ni l'autre, ni Antonio ni toi, vous n'avez de trèfles. Je rappelle, tu as valet 2 et 7 et 5. Le fait même d'être dans cette main avec valet 2 et 7 et 5, ça rend un peu ouf. Mais vas-y, raconte ce qui se passe à la river puisque c'est là que le coup devient légendaire.
À la river, il mise 900 000 dans 1,2 million.
Ouais.
Donc là, il dit qu'il a un trèfle.
Oui.
Un trèfle moyen. Parce que c'est un bon joueur ici, saura miser même un petit trèfle, tu vois. Il pourra miser même un 4 de trèfle ou un 7 de trèfle. Parce que ce sont des trèfles qui peuvent suffire à justement remporter contre un partage du pot, parce que il y a 5 trèfles au board. Maintenant, moi, je pourrais peut-être coller, parce que si je crois qu'il a pas de trèfle, je pourrais coller pour partage, ok?
Ouais.
Donc,
ouais.
S'il a un 4 de trèfle lui-même ou un 7 de trèfle, il est au-dessus du board en lui-même, donc il aurait une meilleure couleur, donc il pourrait déjà value bet.
Ouais.
Mmh. C'est ce qu'il dit, ok?
Mmh.
Donc, moi, je vais essayer de lui faire passer son 4 de trèfle ou son 7 de trèfle. Donc, je vais relancer.
Ouais.
En lui disant, moi, monsieur, j'ai une dame de trèfle ou un valet de trèfle. Mmh. Ou
ouais.
Un roi de trèfle.
Ouais.
Je fais 1,9 million.
Ouais,
voilà.
C'est ça.
Mmh. Et là, du coup, je m'attends, s'il me croit pas, à me faire coller, mmh. Tu vois, et qu'il me dise, bah non, je te crois pas, je te colle.
Mmh.
Sauf que là, il me surrelance.
Absolument.
Alors, moi, je l'ai déjà relancé à 6,3 million.
Oui.
Ce qui est un très gros raise.
Mmh.
Donc et là, il me dit.
Ouais.
Ouais. Il me dit, j'ai l'as de trèfle.
Bah ouais, mais moi, à ce moment-là, je me suis dit, mais yo, pourquoi tu le crois pas?
Ah, parce que s'il a l'as de, alors, il peut avoir l'as de trèfle, mais s'il a l'as de trèfle, il a donc un as en heads up, on sait que c'est fort. Donc, ça veut dire qu'il aurait peut-être déjà relancé préflop.
Mm-hmm.
Or, il a checké sa big blind préflop.
Mm-hmm.
Certes, tous les as ne relancent pas préflop en heads up.
C'est
il
vrai.
A un petit as dépareillé, il va checker.
Mm-hmm.
Donc, il a le droit d'avoir l'as de trèfle. Maintenant, il faut qu'il ait à la fois pas relancé préflop, qu'il est à la fois pas misé au flop.
Mmh.
Parce que quand t'as l'as de trèfle, t'as envie de miser au flop aussi parfois.
Je pense.
Vu que t'as tirage couleur max.
Absolument.
Mmh. Il faut qu'il ait à la fois pas relancé le flop.
Oui.
Qu'il ait à la fois pas misé au flop.
Oui.
Qu'il ait à la fois pas misé à la turn quand il a fait couleur max.
Mmh.
Et qu'à la fin, il choisisse le pire sizing de l'univers, de prendre que 900 000 dans 1,2 million, après avoir gâché toute la value qu'il aurait pu prendre avant.
Oui.
Donc moi, j'y crois pas un instant.
D'accord.
Qu'il a l'as de trèfle, puisque du coup, il aurait sans doute fait quelque chose avant, ou alors à la river, il aurait overbet, ou alors check raise à la river pour essayer de moi me faire bluffer ou value bet un trèfle moins bien, prendre un plus gros pot. Mais là, il se contenterait de prendre que 900 000 parce que moi, je vais coller avec tous mes trèfles. 900 000 quasiment.
Alors, donc, yo, coup, c'est là que je me suis posé la question. Alors, évidemment, loin de moi l'idée d'avoir tous tes raisonnements, tellement c'est fin, je suis à des années-lumière. Mais alors, je te pose une question qui est peut-être très bête. Pourquoi, quand lui, il fait les 6,3 millions, son re-raise, pourquoi, à ce moment-là, je me suis dit, mais le premier qui va faire tapis, il va gagner le coup. Pourquoi tu ne fais pas all-in à ce moment-là?
Bah, all-in, c'est 20 millions.
Mmh.
Et on a le même sac tous les deux. Quand un mec te reste 6 millions, pourquoi faire all-in quand tu peux faire un sizing qui est moins gros qu'all-in et qui accomplit la même chose?
Ouais, c'est vrai.
C'est-à-dire, toi, faire 20 millions, quand tu peux trouver un sizing qui te coûte que 10 millions, bah, prends le sizing qui te coûte 10 millions. Sauf que là, je pense pas, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que c'est un coup d'anthologie, je pense pas que ça arrive souvent qu'un mec te fasse quelque chose une fois que tu lui fais 10 millions. S'il bluffait, il arrête et il fold.
Ben ouais.
Voilà, c'est ce que j'ai pensé. Mais en l'occurrence, non, il l'a fait. Donc moi, je lui ai fait 10 millions.
Ouais.
Du coup, le clickback, hein, le minimum possible.
Mmh.
Et du coup, il m'a fait tapis.
Mais c'est, je sais pas parce que tout ce que tu dis, tout ce que toi, tu as fait me semble parfaitement cohérent. Son all-in, bah, moi, je suis resté sur le cul quand il a dit all-in, parce que là, je comprends pas l'histoire. Je lui dis, moi, qu'est-ce que tu dois lui raconter de plus pour qu'il te croie? Et là, je sais pas. Là, je sais pas parce que, est-ce que tu t'y attends pas du tout? Parce que, alors, j'ai essayé de regarder un petit peu ton attitude et tout ça. Il m'a semblé à un moment que ton cœur s'accélérait. Comment t'as maîtrisé l'émotion à ce moment-là? Est-ce que quand il dit all-in, tu prends un coup sur la tête? Tu t'y attends pas du tout? Comment tu vois les choses à ce moment-là?
Ah, je prends un coup sur la tête et c'est un gros pot. Et je prends un deuxième coup sur la tête quand il me montre le bluff. Quoi.
Ouais. Ouais, bien sûr.
Mais ouais, du coup, ça dure pendant une heure et demie où j'y repense. Et... Voilà, mais je ne change pas mon jeu. Après, je reste le même en termes de jeu. Mais effectivement, physiquement, on peut voir que je suis atteint.
Et alors, c'est bizarre parce que moi, à la fin, En fait, j'ai pas tout de suite compris que tu foldes parce que j'ai cru que tu prenais un jeton dans ta main pour call, ce qui m'aurait encore plus halluciné. Et je sais pas, je crois que tu devais compléter les sous d'avant et tout. Je sais pas, j'ai pas eu l'impression que c'était un snap fold quoi. Et j'ai pas tout de suite compris ce qui s'est passé. Et j'ai vu après que t'as poussé les cartes. Ça m'a encore plus retourné. Donc j'imagine toi, tu devais être dans un état mais assez fou quoi.
Ça m'a retourné, ouais. Et j'étais pas sûr qu'il ait dit all-in en plus.
Ah oui.
Est-ce qu'on l'entend dans la vidéo? T'as vu la vidéo? Tu l'entends dire all-in?
C'est pas net, mais oui, mine de rien, je comprends le all-in. Je comprends, ouais.
Mais j'étais pas sûr qu'il ait dit all-in. Je savais pas trop ce qu'il avait fait. J'ai demandé à la croupière est-ce qu'il a dit all-in. Il dit oui, mais il est resté bloqué sur son bet d'avant. Et il me dit oui, mais attends, il faut que d'abord complète le bet d'avant.
Ah là, c'est ça qui m'a embrouillé, moi, d'accord.
Voilà, parce que moi, j'avais dit au bet d'avant, j'avais dit raise, donc j'avais annoncé raise. Donc à partir du moment où t'annonces raise,
il fallait mettre l'eston.
Même si tu te trompes, j'ai mis 10 millions. Et le minimum, c'est genre 10 millions, 50 000, un truc comme ça.
Ouais, d'accord.
Et donc, du coup, il fallait rajouter 50 millions, un truc comme ça.
D'accord.
Et du coup, je les rajoute. Voilà, et ensuite, avec all-in, je me dis. Ce qui est dommage, c'est que j'aurais pu prendre peut-être 10-15 secondes de plus et réfléchir parce que. Enfin. Après, je pense pas que j'aurais collé pour le split. Mais ce serait fou de coller pour split le pot.
Ouais. Bon, Yo, ça te consolera pas d'être dans une main de légende, mais bon, mine de rien, dans quelques années, ça comptera. Avant de te quitter, le tournoi vient de se terminer. Qu'est-ce que t'as encore des tournois en programme dans ces WSOP? Tu vas faire quoi?
Ouais, je vais faire le Mystery Bounty à 10 000, le Main Event. Je sais plus trop ce qu'il y a encore, mais je crois que c'est les deux plus gros qui restent sur la fin. Parce que là, je pars une semaine, 10 jours en vacances au milieu de. J'avais prévu de partir en vacances pour pas faire un mois complet d'affilée à jouer tous les jours au poker.
D'accord.
Et voilà, parce que moi, je fais du cash game à la Bobby's Room aussi de temps en temps quand je suis dans la game, voilà. Et donc du coup, c'est un mix entre tournoi et cash game. Ouais.
Merci beaucoup Yo, encore bravo pour cette performance même s'il y a forcément de la déception. On t'embrasse très fort et bravo pour ce coup absolument dingue. Ciao.
Merci Daniel, bye merci, bye. Bisous.
Ciao. Allez, Vegas, on y va immédiatement retrouver Alex Réard. Salut Alex.
Salut Alex.
Salut les gars.
Allez Alex, fais-nous rêver où tu es physiquement. Exactement.
Alors, physiquement, je suis entre le Bellagio et le Vedara.
Ah,
voilà.
Ah, ça veut dire que tu n'es pas proche des tables de jeu alors.
J'étais sur le point de rentrer. Non, j'étais sur le point de rentrer au Vedara et je me suis dit que la connexion n'allait pas être folle, donc je me suis arrêté dans le couloir en plein milieu des deux hôtels, des deux casinos.
Alex, t'es à Vegas depuis le premier jour?
Pas exactement. Je suis arrivé le 31 mai, ça a commencé. J'ai développé deux events importants, on va dire. Mm-hmm. Et puis voilà quoi. Donc presque.
On peut dire déjà que tu fais ta meilleure entrée dans cette WSOP parce que tu es déjà à 6 ITM quasiment en 9 tournois. Est-ce que tu l'avais déjà fait ça?
Alors si on prend d'un point de vue ITM pur, oui, c'est sûr. D'un point de vue cash, l'année dernière, j'avais déjà fait 3e d'un event à ce moment-là. Donc un peu moins bien là-dessus, mais c'est sûr qu'en termes de deep run, de confiance et tout, c'est un très bon début quoi.
Effectivement, très bon début pour toi Alex Réard qui a déjà deux bracelets à Vegas. Et il se murmurait dans les milieux autorisés, comme on dit en politique, que tu partais à Vegas. Alors c'est facile de le dire parce que j'imagine qu'un champion comme toi, quand tu vas à Vegas, t'as forcément la dalle et t'as envie de gagner. Mais est-ce que cette année il y avait une volonté un petit peu plus particulière? Il paraît que t'étais vraiment affamé de résultats.
Écoute, tu me l'apprends. Non, je sais pas plus que ça. Ouais, je me conditionne de la même manière pour être le plus performant possible et puis en espérant que voilà les résultats viennent quoi, parce qu'on sait que c'est pas une science infuse, encore moins au poker. Mm-hmm. Mais donc bien évidemment, oui, toujours envie de bien faire, etc. Mais plus que d'habitude, je sais pas. En tout cas, je suis arrivé. Justement, pas forcément dans la meilleure des optiques, on va dire, et au final, ça se passe plutôt bien et je suis très content d'être là et je prends du plaisir et c'est le principal.
Alex, d'habitude t'étais un joueur discret, même dans ta vie t'es pas quelqu'un qui justement dévoile un peu sa vie sur les réseaux sociaux, et puis là moi j'ai remarqué un peu, ça y est, tu commences à faire du contenu, à raconter ton parcours. Enfin, je trouve ça génial. Qu'est-ce qui a fait la bascule que tu puisses te promouvoir personnellement sur les réseaux?
Comme tu l'as dit, hein, c'est pas quelque chose qui est naturel chez moi. J'ai envie de dire, il faut vivre un peu avec son temps. Et puis surtout, c'est aussi cool de faire partager. Moi, j'aime bien faire partager les choses. Je discute pas mal avec les gens, etc. Donc là, voilà, c'est toujours un petit clin d'œil si on peut permettre de faire profiter un petit peu plus encore les gens qui n'ont pas la chance de venir, et même ceux qui ont la chance de venir d'ailleurs. J'essaie d'aller un peu contre ma nature, mais ça me déplaît pas plus que ça non plus, quoi. Je le fais quand j'ai envie de le faire, donc voilà.
C'est le nouveau Alex Réard, effectivement. Dire qu'on voit un petit peu plus sur les réseaux, raconter sa vie, ses résultats et faire partager son Vegas. On va rappeler quand même tes 5 très bons résultats, et c'est évidemment pas fini te concernant, on est sûr qu'il y en aura d'autres. 35e du 5K quand même, c'est un très très beau tournoi.
Énorme.
148e, attends, je mets mes lunettes parce qu'il y a plusieurs résultats.
148 sur 1534 joueurs sur le 1K5, le shootout, pour 6 000 $.
26e du 25K.
Bah, celui-là était monstrueux. Je pense qu'il aurait dû le prendre en temps normal. Tu devais le gagner celui-là, hein, vraiment.
Pourquoi tu dis ça?
Parce qu'à un moment, il était bien en jeton, et je dis souvent.
J'ai une très belle anecdote sur ce tournoi-là.
Alors vas-y.
Allez, vas-y.
J'ai une très très belle anecdote, et dont je suis fier, donc je le dis. Il y a un coup où quelqu'un fait tapis, je ne sais plus qui exactement, pour 11 blindes à peu près. Et Phil Ivey qui est embêté, qui ne sait pas s'il doit call ou pas, et qui finit par call. Et il gagne le coup, il partait derrière, mais il gagne le coup. Et il me regarde en me disant, toi je sais que tu sais, est-ce que j'ai fait un bon call? Et du coup, j'étais très flatté qu'il me pose la question, parce que c'est pas trop son genre de faire ça, quoi. Et quand on en parlait un petit peu et tout, Davidi me disait la dernière fois qu'il a demandé, enfin que lui a entendu Phil Ivey demander ça à quelqu'un, c'était à Alex Luneau dans une variante. Donc tu vois, ça fait toujours plaisir.
C'est génial ça. Moi je l'aurais écrit sur pyrogravure. Hein.
Mais attends, quand il t'a demandé, t'as répondu ou t'étais tellement surpris de la question que t'as bafouillé?
honnêtement un peu des deux. J'étais un peu surpris et tout, et bien évidemment que j'allais pas lui dire non, ton call c'était de la merde. Je lui ai dit c'était très bien. Et en plus c'était le cas. Je pense que c'était le cas. Voilà.
Tu vas me dire, c'est un petit peu comme
j'aurais
si toi,
pas dû le contraire si ça avait été le cas.
C'est un petit peu comme si toi tu sors d'un tournoi et tu me demandes à moi d'après toi.
Jason Kuhn m'avait dit que il avait été fier de mon jeu, Jason Kuhn, en disant que j'avais tenu au triton pendant au moins 3 heures entre 3 et 6 blindes.
Écoute, je vais te raconter une anecdote un peu similaire. Alex, je sais que t'aimes bien le foot.
Ah ouais.
En 2003, je suis invité à faire le déplacement avec le PSG au stade Vélodrome. Et c'est, je sais pas si tu t'en souviens, le match où Ronaldinho régale avec 2 buts. Bref, le PSG gagne 3-0 au Vélodrome.
Au milieu du terrain.
Exactement. Et comme c'est Louis qui m'avait invité à faire le déplacement, j'étais dans le bus, tout, et j'étais dans le vestiaire à la fin. Okay. Et je sais pas si tu te souviens de ce but de Ronaldinho où il dribble et il élimine le gardien. Il va pour mettre la frappe dans le but vide. Sauf que Jérôme Leroy arrive au tout dernier moment et pousse le ballon au fond. Et après, on est dans le vestiaire, Ronaldinho, tout le monde est autour de lui, il a fait un match stratosphérique et tout. Et moi, je suis assis dans un coin sur le banc, il me connaît pas, hein. Moi, je suis là, je suis l'invité et tout. Et Ronaldinho, je ne sais pas pourquoi, il sait pas qui je suis, je ne sais pas pourquoi. Il se retourne vers moi, il me dit, tu penses que la balle, elle allait dans le but? Enfin, il me fait comprendre, parce qu'il parlait pas bien français. Il dit, tu penses que la balle, elle allait dans le but ou pas? Et moi, j'étais assis en tribune. Je peux pas dire que j'avais un angle magnifique pour dire si le ballon allait au fond. Hein. Je l'ai regardé, elle allait carrément dedans, c'est sûr.
Bravo, bien joué.
Alors qu'en fait, si tu regardes bien les images, il est fort possible qu'elle tape le poteau et qu'elle aille pas dans le but. Hein. Je suis pas sûr qu'elle y allait au fond. Voilà. Alors on a, tu vois, Alex, on a eu chacun ce petit moment.
Moi, je suis d'accord avec toi, Ronaldinho. Et pour moi, c'est très similaire. Ronaldinho, c'est l'équivalent de Phil Ivey pour moi. C'est un peu les yeux, donc voilà.
C'est sûr que c'est énorme.
Et tiens, puisque t'en parles de Phil Ivey, on avait prévu d'en parler tout à l'heure, mais évidemment, légende du poker, t'as dû suivre par la même occasion le fait qu'il ait décroché un bracelet. Ça a fait un peu de bruit à Vegas, parce que c'était il y a 10 ans la dernière fois qu'il en avait gagné un.
Ouais, je me souviens un peu. Alors, j'avoue que je me souvenais plus, ça faisait combien de temps qu'il avait gagné son dernier bracelet. Mais en tout cas, ouais, les gens en parlaient. Alors, moi, quand c'est arrivé, j'étais au Win, ou encore, quoi. Mmh. Et il passait à la télé, et ouais, tout le monde en parlait. Hein, voilà. Bon, évidemment, c'est un monsieur ici, hein, ça fait partie des joueurs. Je pense que c'est. Bon, je sais pas qui est le devant qui, mais en tout cas, voilà, les Phil Hellmuth, les Negreanu, les Jason Mercier, etc. Peut-être un poil moins, mais voilà, c'est des joueurs qui sont mythiques, quoi, clairement, dans le poker. Et c'est toujours un plaisir de les croiser, quoi.
C'est marrant quand même, parce que ces pionniers, ces légendes qui ont installé un petit peu le jeu pour le grand public, en fait, elles restent. Et ce sera dur même pour des gars comme toi, Alex, ou d'autres qui avaient des résultats tout le temps excellent, on a l'impression qu'on pourra pas les déloger parce que c'était un peu les premiers, alors qu'il y en a eu d'autres avant eux, mais ils ont installé le poker grand public, donc ils restent un petit peu comme des icônes.
Ouais, c'est un peu, tu sais, je sais pas, mais on peut comparer ça encore au foot, quoi. Hein. Il y a les Maradona, les Platini, les Pelé, etc. C'est des gens qui ont révolutionné le football un petit peu.
Ouais.
Et eux, à leur époque aussi. Et après, t'as des joueurs qui deviennent très très forts, mais le jeu a déjà plus ou moins été révolutionné, quoi. Mmh. Donc c'est encore différent, c'est encore une nouvelle équipe aujourd'hui. On peut parler de Messi, bien évidemment, Cristiano Ronaldo, etc. Mais c'est des grands athlètes, c'est des grands footballeurs. Mais est-ce qu'ils ont révolutionné quelque chose? C'est encore différent. Et ben, je pense qu'on les voit un peu comme ça, ce type de joueurs, avec leur charisme. Et puis c'est des Américains, c'est toujours pareil, quoi. Donc c'est encore différent. Ils sont chez eux. Je pense que c'est encore autre chose.
Ouais, Alex, tu représentes bien évidemment Taro, Unibet, qu'on salue. Je voulais voir, est-ce que tu as des projets avec eux? Est-ce que tu vois des choses différentes de ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce que tu attends beaucoup de choses d'eux? Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues?
Que ceux qui fassent une télé-réalité,
non, pas du
un
tout.
Resto ensemble?
Non, mais des projets. Bah, Unibet Resto, non, merci. Je pense pas que ça va être un truc, mais est-ce qu'il y a des projets avec eux? Je sais pas.
Oui, mais qu'est-ce que tu sous-entends?
Ben, je sous-entends, je sais pas, est-ce qu'ils peuvent l'accompagner sur les tritons? Est-ce que, je sais pas,
un truc. Voilà, va au bout des questions. Ah,
Alex, il a bonne.
Bon, est-ce qu'ils peuvent m'accompagner sur les tritons? C'est peut-être un peu beaucoup, mais en tout cas, ils font chaque année le nécessaire pour m'aider à aller dans ce sens-là, en gros, quoi. Donc, j'ai pas grand-chose à leur reprocher. Et voilà, donc je suis très content de encore une fois, je le répète, mais parce que c'est le cas. Ils jouent le jeu à fond. J'essaie de jouer le jeu à fond. On s'entend plutôt très bien, et voilà, donc que ça continue, quoi.
Alex, Aurélie, c'est un secret pour personne, ta femme t'a rejoint dans le team, ça a changé quelque chose? C'est rare d'avoir un duo comme ça, qui est mari et femme en plus, dans une team de poker, c'est quelque chose d'assez fascinant même.
Ouais, pour nous, c'était quand même un objectif caché, un peu entre guillemets, quoi, tu vois, Aurélie avait été sponsorisée déjà auparavant.
Oui, bien sûr.
Moi c'était pas le cas. Ensuite j'ai été sponsorisé, pas elle. Et puis là, voilà, on a la chance d'être sponsorisé par la même room, c'est quand même génial. Du coup, on fait elle a des, on va dire, des déplacements plus ou moins, j'ai pas envie de dire obligatoire parce que c'est pas le titre, le terme que j'ai envie d'employer, mais qui sont dans son contrat, etc. Mm-hmm. Moi, je suis un petit peu plus libre, mais ça me fait quand même plaisir d'aller aux mêmes events, donc on joue les mêmes events, et puis voilà, donc on croise du monde, les gens sont contents pour nous. En tout cas, c'est ce qu'on ressent. Et puis pour nous, c'est quand même une fierté, parce qu'on ne faut pas oublier qu'Aurélie et on s'est rencontrés avant de jouer au poker. Donc c'est quand même, je trouve, une belle
magnifique. Quoi.
On s'est pas rencontrés au poker. Quoi. On a tous joué ensemble et tout. Donc voilà, 20 ans après, on est dans la même team, sponsorisé. Et c'est sûr que c'est un beau clin d'œil quand on regarde les efforts et le parcours derrière. Quoi.
Alex, ça fait quand même longtemps maintenant que tu viens avec nous dans le RMC Poker Show. On a suivi toute ton évolution, tes résultats. Je me souviens encore, moi, de l'époque où tu venais et t'en étais pas à jouer les 25K. Hein. Je me souviens, les premières fois, les 2000, les 3000, c'était un petit peu les tournois. Là, il y a eu un vrai gap de franchi quand même, hein, pour toi, là, maintenant, à jouer ces tournois-là. C'est quoi les prochaines limites?
Bon, les prochaines limites, après, c'est toujours pareil. C'est une histoire de j'ai envie de dire, c'est, ça va être les tritons, bien évidemment, quoi. Mais à quelle hauteur, à quelle fréquence, etc. C'est compliqué à dire parce que c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. Et encore une fois, comme je l'ai dit, les moments où je vais les jouer, j'espère au moins faire un festival cette année. Et le moment où je vais le jouer, je sais que je serai... Enfin, en tout cas, je vais tout faire pour être vraiment performant et être capable de les gagner. J'y vais pas juste pour les jouer, quoi. Même si je sais très bien que c'est difficile et qu'il y a encore c'est un gap encore différent. Enfin, c'est même pas une histoire de niveau forcément, c'est surtout une histoire de... c'est un tout, quoi. C'est vraiment un tout. Mais c'est des événements qui sont magnifiques aujourd'hui, ils ont réussi à faire évoluer la marque et vraiment dans le bon sens, parce que si je me souviens de quelques années auparavant, c'était pas forcément quelque chose qui, moi, m'attirait plus que ça. Et aujourd'hui, ça a pris beaucoup d'ampleur. Leur ergonomie, leur packaging, etc. sont au top, quoi. Mm-hmm. Et donc, ça me motive encore plus pour les jouer et puis essayer d'aller chercher ce trophée.
Ok, Alex, écoute, tout ce que je te souhaite d'ici dans les semaines qui viennent, c'est de revenir dans le RMC Poker Show, parce que tu sais ce que ça voudra dire. Ouais. Donc, on sera très content que tu reviennes. Bonne chance à toi. Et à très vite, merci. Alex. Bye bye. Ciao.
Merci pour l'invitation.
Ciao, Alex.
Ciao, tout le monde.
Ciao, champion.
Ciao. Bonne journée. Ciao, merci.
On va enchaîner. Je crois que Maxime Arnoux est déjà en ligne avec nous. Salut, Maxime.
Salut, Maxime.
Salut, Daniel. Comment ça va?
Ça va très bien.
Salut, Loulou.
Alice Wina, évidemment, tu es sur place pour cover les championnats du monde. J'aime bien dire ce mot, pour cover les championnats
ça,
du monde à Vegas.
Pour couvrir, si tu veux.
Bien sûr. Tout se passe bien d'abord pour commencer. Tu es à l'aise, remis du décalage, fatigué, parce qu'à Vegas, on est fatigué le premier jour et le dernier. Donc.
Ouais, bon, aussi le deuxième et le troisième, hein, ça m'empêche pas trop non plus, hein, le temps qu'on se remette un peu du décalage horaire, mais bon, ça va, on est bien installé, tout va bien, on est en direct du hors-chou.
Est-ce que vous faites quand même des grosses journées?
On s'est remis dans le bain, quoi.
Vous faites des grosses journées, c'est combien à peu près? 14h? 13-14h?
Bah, en fait, ça dépend de l'actu un peu, tu vois. Par exemple, hier, Nicolas Vessière et Samy Bechaed ont buzz prématurément des finales. Du coup, la journée a duré pas spécialement longtemps, mais après, là, aujourd'hui, par exemple, ça a été un petit peu plus long. Ouais, ça dépend des jours, ça dépend de l'actu, quoi. Mais généralement, ouais, c'est souvent une dizaine d'heures, de 10-14, ouais. Ça dépend.
Allez, faisons un petit peu d'actu avec toi. Bah, tu viens d'en parler à l'instant. Nicolas Vessière et Samy Bechaed, Sonny Franco aussi, des Français qui ont des résultats. Nicolas Vessière, 9e de l'Event 28, le 1500
ouais,
Freeze Out.
Un 1500.
Donc, t'as suivi tout ça. Raconte-nous un peu des histoires, des anecdotes. Comment est l'ambiance générale?
Bah, écoute, concernant Nicolas, c'est un très très body prod. Malheureusement, ça se termine pas très très bien parce qu'il perd avec As-Dame contre As-Dame, je crois.
Incroyable.
Donc, c'est un peu terrible comme élimination, c'est évidemment. Mmh. Après, bah, Samy, c'est un bon début pour lui également. Donc, je crois qu'il a été croupier à Los Angeles.
Mais oui. Il était venu dans Samy est venu plusieurs fois dans les RMC Poker Show. Une belle histoire lui aussi. Il fait 8e du 3006 max pour 48 000 $.
Sonny Franco fait 11e de ce même tournoi.
Ah, moi j'ai 10e sur ma fiche, mais c'est toi qui dois
10e,
savoir.
Bah alors écoute, on va te faire confiance.
Fais-nous un peu rêver. T'as vu des coups un petit peu extraordinaires, des choses que tu as notées, que tu as pu raconter sur le site et que nos auditeurs ont envie d'entendre?
J'ai pas vraiment vu de coup incroyable pour l'instant. Écoute, apparemment là, peut-être dans d'autres tournois avec Romain qui avait raconté 2-3 trucs sur les réseaux avec des histoires de foule contre foule. Sinon,
il y a quand même un coup sur le 2005 avec l'Espagnol qui est chip leader actuellement face à un Russe où ils ont pratiquement un équivalent. Ils ont les deux gros chip leaders. Et l'Espagnol s'en va en l'air avec As-Dame lorsque le Russe a As-Roi, préflop, et il frappe sa dame à la turn, et ça le fait passer à 9 millions et quelques, alors qu'il envoie pratiquement plus de 50 bébés, 50 bébés préflop.
Belle lecture du board, hein, comme on dit. Donc sinon à part ça, l'ambiance, écoute, y a toujours beaucoup de monde, hein, il fait toujours très froid dans les salles et très chaud dehors. Et puis voilà, après au
on
niveau
estime
des
que tout le monde est arrivé à part Moundir, on peut dire que tous les grands joueurs sont là.
Écoute, ouais, il y a déjà pas mal de grands joueurs qui sont là. Ben, bah, tu sais, après, il y en a beaucoup qui font vraiment du début à la fin des WSOP. C'est pour ça que là, déjà, au palmarès, un peu, t'as quand même pas mal de grands noms qui ont gagné leur peut-être cinquième bracelet. T'as John Hennigan qui a gagné son septième bracelet, Scott Seaver son cinquième bracelet. Enfin voilà, c'est ce genre de gros
réguliers. Et on en parlait tout à l'heure avec Alex, Phil Ivey son onzième. Hein. Ça a dû faire du bruit, non? T'étais
et
là
oui,
ou pas?
Évidemment, Phil Ivey, ouais, bah, bien sûr, ouais, j'étais là, j'ai pu voir ça. Ouais, c'est vrai que c'était une atmosphère un peu particulière. Il y avait un rail vraiment très fourni. Et ils avaient mis la table finale pas sur le plateau télévisé de la salle principale, mais du coup au milieu de la salle principale, là où il y a un rail qui est beaucoup plus près des joueurs. Ouais. Donc c'est bien parce que ça permet un peu au public de pouvoir admirer un peu Phil Ivey d'encore plus près, quoi. Surtout sur un moment un peu historique comme ça où il gagne son 11e bracelet, où il dépasse trois légendes au classement des bracelets WSOP. Donc vu qu'il en avait 10, comme Doug Brunson, Eric Seidel et j'en oublie un.
Et généralement Phil Ivey, on peut pas dire que ce soit le plus exubérant des personnages. Là, il a quand même laissé éclater un peu sa joie. Il a montré
Un petit sourire, je crois, un petit sourire à la.
Il a fait un petit sourire pour la photo. Après, je te cache pas que on avait quand même l'impression qu'il voulait partir le plus vite possible. mais voilà, il a fait le minimum syndical, on va dire. J'ai l'impression avec les journalistes.
Il y a des gens comme ça. Tu vois, la joie, ils veulent pas. Alors que quand Mounir va gagner un bracelet, je peux t'assurer.
Il
va faire le tour du Paris et du balise en slip avec une plume dans le derrière.
Plume dans le derrière, je sais pas, mais peut-être qu'à 9 millions ça se fera. Mais je vais même jusqu'au Danton. On est parti là où il y avait tous les walkers et tout là.
Bien sûr. Il faut être un petit peu. On considère, oui, je te demandais, tous les grands joueurs sont arrivés. On est vraiment en plein dedans. Parlons de Davidi, qui, comme d'habitude, fait preuve de beaucoup de transparence en racontant un petit peu ce qui s'est passé pour lui depuis le début de Vegas, et ça s'est pas trop bien passé, même pas bien passé du tout pour lui, quand on sait à quel point d'habitude les résultats sont bons pour lui.
Ouais, Daniel, Davidi avait décidé de faire ce Vegas en deux fois, donc d'aller la première fois de faire les 25K, le 3K, enfin un énorme tournoi, et bien évidemment il le dit lui-même en tout cas sur ses réseaux, et on salue que pour l'instant il y a aucun ITM, qu'il y a très peu de variance pour lui, et que ça arrivait à tous les joueurs. Donc là il rentre chez lui bien évidemment pour aller voir sa famille, faire un espèce de breakdown,
et il revient
pour revenir bien rechargé pour le magnifique main event.
T'as eu l'occasion de parler avec lui, Maxime?
Écoute, pas spécialement, je l'ai juste croisé alors qu'il allait buy-in le 2,5K là, il y a hier. Voilà, après on sait que de toute façon l'objectif, je dirais, de sa carrière, c'est ce fameux main event justement qu'il rêve de gagner un jour, et d'ailleurs je crois qu'il est persuadé qu'il va le gagner un jour.
Il nous l'a déjà dit, ça c'est vrai. C'est fou d'ailleurs d'être persuadé que tu vas. Enfin, ce tournoi est tellement dingue et avec tellement d'aléas que je sais même pas comment on peut se dire, mais bon, en même temps, il est tellement agité par ça. Et on lui souhaite surtout. Moi, je lui souhaite. Ce serait extraordinaire.
Ça serait juste
Puis il a un jeu qui se prête peut-être particulièrement à ce tournoi où il faut jouer assez exploitant, et ça, on sait que c'est sa spécialité. Voilà, j'imagine que. C'est un argument en plus pour espérer aller peut-être gagner, aller en table finale sur le main event.
Merci beaucoup, Maxime.
Merci, Maxime.
Petit round-up en direct de Vegas.
Courage.
Et oui, parce qu'il va te falloir surtout de la force.
Et du Red Bull.
Et du sommeil. Et du Red Bull. Parce que c'est loin d'être terminé quand même. Hein. On y est jusqu'à mi-juillet. Ouais, hein. Ça va même se finir après l'Euro, c'est dire.
Putain, je sais pas dans quel état on devrait finir quand on fait un WSOP entier, c'est-à-dire 3 mois. C'est une expérience que j'aimerais.
Quand même, c'est pas à toi que ce genre de choses va faire peur. T'es capable de te préparer pour de gros trucs comme ça.
Ce serait intéressant de vivre.
Tu vas finir par là.
Il faut que j'en discute avec des
mecs. Allez, on revient dans un instant.
RMC Poker Show.
Daniel Riolo et Mindy.
La deuxième partie du NBA Poker Show, on est là, évidemment, on quitte Vegas. Non, quand même, juste avant de quitter Vegas, parce que tu l'as dit juste avant la pub.
Ouais, Lou.
Un jour, tu vas le faire, d'y aller, point. Parce que là.
J'ai envie.
Parce que là, je trouve que. Là, tu vas encore un peu touriste. Non, mais.
J'aime bien quand tu poses tes mots comme ça. Effectivement, je ne suis pas dans les meilleures conditions. Hein. C'est-à-dire pour enchaîner les tournois.
À un moment, tu vas claquer le mois et demi.
Mais il faut
la villa, minimum, la famille.
Le mois et demi, c'est une. En fait, pour te donner un petit avant-goût, je suis en train de monter un projet justement pour vivre les WSOP pleinement. Donc,
Non, mais vraiment, faut que tu sois concentré sur la perf. Pas que tu développes 1000 projets à côté, sinon tu vas pas être concentré.
Ah non, mais quand je te parle de ça, c'est que d'être concentré, être à 100% sur le WSOP.
D'accord, j'ai compris. L'année prochaine, comme j'y vais.
Ah voilà,
je verrai ça de près.
C'est vrai. Ah bah oui, c'est vrai que t'es l'année prochaine.
Ah oui. Ah bah oui. On va pas rater tous les ans non plus.
Parce que tu vas nous manquer.
L'euro c'est pas tout le temps.
Heureusement.
Oui, je disais nous quittons Vegas.
Oui.
Et on va pas parler tennis, même si moi forcément je pourrais parler tennis longtemps. Bah, t'es abandonné. Mais
t'as un peu la raquette de diamant. Non, mais je lui connais un peu. Hein, depuis mais... que je te fréquente, Tariq Benabiles. Moi, je suis de l'époque de Tariq Benabiles. Hein, excuse-moi. Hein.
Chaque fois qu'on parle tennis, tu me ressors ce nom.
Mais parce que c'est, je trouve que ce mec a une histoire incroyable. Et ouais. Puis Andy Roddick, bien évidemment.
C'est vrai.
Ah oui, loulou.
C'est un, ça a été un joueur et un coach. Et Slimane Taxwit également a été joueur et il est coach aujourd'hui. Bonjour Slimane.
Salut Slimane.
Hello à tous.
Salut,
ça va? Merci de l'appel.
Ah bah oui,
effectivement, un petit voyage. Je suis à Birmingham.
Ah. Et oui, parce qu'il y a un tournoi sous WTA là-bas.
Exactement.
Sur gazon.
Exactement.
Et que tu es le coach de Varvara Grasheva.
Oui, avec mon boss Jean-René Lisnard. Mm-hmm. Voilà, ça fait quelques semaines que je la suis aussi sur le circuit depuis Miami.
Ouais.
Varvara Grasheva, pour ceux qui écoutent le RMC Poker Show et qui ne connaissent pas le tennis, c'est cette jeune Française naturalisée depuis un peu plus d'un an maintenant, qui a perdu en huitième de finale à Roland-Garros, qui constitue pour elle une très belle performance. Elle est donc entraînée. C'est quoi? C'est l'académie Lisnard là, dans c'est pas loin de chez toi?
Ouais, c'est un centre. C'est un centre d'entraînement.
C'est pas très loin de chez toi.
Sur Saint-Pierre de la Mer?
Sur Cannes.
Ah oui, ouais. D'accord.
C'est à Cannes.
Ah, Canada, oui, c'est un petit peu plus loin.
Bon, ok, d'accord.
C'est à côté.
Bon, voilà, c'est au bord de la mer, pas loin, quoi.
Ça fait, ouais. C'est bon.
Et toi, tu t'occupes d'elle particulièrement, et donc vous êtes. T'as également bossé chez Piatti. Je savais pas que t'avais bossé chez Piatti.
Ouais, pendant deux ans.
Ricardo Piatti,
c'est un restaurant.
Master,
exactement.
Master coach qui avait passé énormément de champions, et notamment Yannick Sinner, le numéro 1 mondial. Puisque c'est Ricardo Piatti qui l'a formé, enfin qui l'a récupéré quand il avait 13 ans.
Exact.
Dans le nord de l'Italie, à Bordighera, à côté de San Remo.
Junior pro avec Yannick, pardon.
Parce que San Remo, tu vois, c'est une ville de poker.
Ouais, c'est allé assez vite.
C'est une ville de poker, mais juste à côté, tous les grands noms du tennis italien viennent de là-bas. C'est une région de tennis.
Ah ouais,
d'accord.
C'est un fournisseur officiel.
Fognini était de là-bas, Sinner est de là-bas, Arnaldi aussi. Ah et tu disais t'as vu le passage Yannick Sinner chez Piatti, tu y étais à ce moment-là?
Ouais, alors moi j'y suis resté que deux ans, mais lui il avait entre 15 ans et demi, 16 ans, et donc les deux ans qui ont suivi, donc il a fait ses premiers points ATP, gagné ses premiers futurs, ses premiers challengers, mm-hmm. Et c'est allé à une vitesse incroyable. Tout le monde se disait que ce gamin allait bien jouer.
Oui, ça.
Si vite, je pense qu'il y en a très peu qui auraient misé dessus par contre. Mais bon, voilà, on voyait le mec qui s'entraînait 4-5 heures par jour, concentré sur chaque balle, pas un mot plus haut que l'autre, des sets d'entraînement avec des mecs moins forts, plus forts, pas de problème. Donc, ouais, c'était déjà en termes de concentration et d'application, il faisait la différence. En termes de jeu aussi, bien sûr, mais un mec méga impliqué, super, super humble, il faisait le taf, quoi. C'était un joueur de tennis déjà à 15-16 ans, quoi.
Slimane, j'ai juste une question juste avant de rentrer dans ta passion pour le poker. Et c'est toujours, moi, une question qui me trotte sur le tennis. Quand est-ce qu'on aura un Français champion à Roland-Garros? Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui à nos athlètes français pour qu'on décroche?
Alors, la question où je vais vous laisser, parce que ça peut prendre deux heures. Non, mais il n'y aura pas de réponse.
Non, exactement.
Ah ouais, il n'y aura pas de réponse.
Si, mais il faudrait qu'il développe beaucoup.
L'envoyer en Russie.
En fait, c'est simple. Il pourrait te parler de ce qu'il fait dans l'académie Ricardo Piatti et il te dira, c'est tout ce qu'on ne fait pas en France.
Comment ça fait qu'un mec comme Tariq Benabiles est parti chercher Andy Roddick au fin fond du classement qu'il a mis numéro 1, parce qu'il a été numéro 1 Andy Roddick, et que pourquoi on n'aurait pas une histoire comme ça chez les Français avec les super athlètes qu'on avait?
C'est très large. Non, c'est très large comme question, parce qu'on a eu 4 mecs qui ont méga bien joué là, les nouveaux mousquetaires.
Ouais.
Ils ont tous les quatre été maîtres, par exemple, mais ils arrivent à une période où les grands chelems ont été partagés entre 3 mecs plus 2. Donc déjà, si par contre, il faut, un peu comme au poker, il faut un peu du run aussi générationnel, on va dire, un peu du run dans les tableaux. Là où en ce moment, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, c'est qu'on n'a pas beaucoup de chance, on ne se met pas beaucoup dans la position de le gagner. Donc ça c'est vrai que c'est... avant de le gagner, il faut déjà se mettre dans la position de le gagner, avoir 3-4 mecs régulièrement en fin de première semaine, deuxième semaine déjà. Je pense que ça, ce serait un objectif top pour le tennis français, comme ça a été le cas à une époque. Après, de là, le gagner, ouais, il faut que les planètes s'alignent un peu et ouais, il faut du run. Il faut du run, la culture peut-être.
Allez, je vais te le dire autrement. Il faut sortir du coton dans lequel la Fédé met les joueurs. Le système des académies, déjà, en termes de travail, c'est un petit peu plus prononcé. Et quand t'es chouchouté, câliné depuis que t'es gamin, l'exigence pour aller chercher une place de numéro 1 mondial ou pour un grand chelem, elle n'est pas d'actualité dans la formation de nos joueurs de tennis. Maintenant, si certains veulent faire les sacrifices...
C'est pour ça qu'ils sont allés chercher Ivan Ljubicic, par exemple.
Oui, mais pour l'instant...
Pour avoir une autre vision.
Oui, mais le fait que Ljubicic soit à la Fédé, il va pas changer. Enfin, Yannick Sinner, il part à 13 ans, il quitte ses parents qui sont dans la montagne. À 13 ans, c'est compliqué quand même d'aller se mettre dans une académie, dans une ville que tu connais pas. Il y a 2-3 sacrifices que le tennis... faut commencer à s'en parler la langue. Enfin, il est italien, Yannick Sinner.
Il parlait allemand
au départ.
T'es germanophone quand
oui,
il est arrivé.
Sa culture, parce que les gens du nord de l'Italie sont en fait, ils ont deux cultures, allemande et italienne.
Ah ouais.
Voilà. Mm-hmm. C'est des sacrifices que beaucoup de nos joueurs ne font pas forcément, quoi.
D'accord.
Voilà, ou ne sont pas prêts à faire. Okay. Bref, ça nous emmènerait trop loin que je te raconte la vie des fameux 4 nouveaux mousquetaires qui bossaient pas des tonnes. Parlons du poker, Stéphane, parce que si t'es là, c'est pour parler de cette passion. Il y a toujours eu un lien entre le poker et le tennis. Il y en a beaucoup. D'abord, ceux qui jouent et qui sont joueurs. Il y a eu des coachs. Chez les coachs, on en a eu. J'imagine que tu connais Pierre Gauthier, qui a été coach mental, tennis et poker.
Ouais.
Comment toi, tu as fait ce lien? À quel moment tu as commencé à jouer au poker? Pourquoi? Comment?
Alors, ça a commencé... je m'étais blessé à la main, un peu bêtement. Mm-hmm. Et puis, je pouvais ni jouer ni enseigner pendant quelques mois. Et bon, je me suis inscrit comme ça sur une room. Et puis, j'ai commencé à jouer pour passer le temps un peu. Mm-hmm. Ça m'avait déjà un peu titillé parce que quand je partais faire quelques tournois, j'ai joué quelques tournois futurs, voilà, sans grande ambition, mais j'en ai joué quelques-uns. Mmh. Et en fait, dans tous les lobbies d'hôtels, il y avait 5-6 joueurs, ils sortaient la manette et ils jouaient aux cartes.
Ah ouais?
C'était en 2007, 2008 peut-être.
Mmh. Ah oui, Eldorado.
Ça avait déjà un peu fait un boom, mais tout le monde jouait, sortait la manette et jouait aux cartes. C'était un truc de dingue, quoi. Les joueurs de tennis adore ça. Mm-hmm.
Comment tu t'es retrouvé, Stéphane?
Du coup, quand je me suis blessé.
Vas-y, pardon, temps pour moi.
Du coup, quand je me suis blessé, je me suis dit, je vais voir ce que ça donne, quoi.
Génial. Et comment ça se fait que tu te retrouves ex-colocataire de Pierre Calamusa? faut que tu me racontes.
L'histoire est. L'histoire est encore marrante. Donc, je vivais à Grenoble pour mes études et pour passer mon diplôme. Mm-hmm. Et puis, je rencontre par hasard un jeune joueur de tennis qui jouait à l'époque avec mon frère dans le petit club d'où on vient. Mm-hmm. Et qui me dit qu'il est en train de... Je le croise par hasard dans les rues de Grenoble. Il me dit, bon, j'ai arrêté les études, je fais un truc qui me rapporte de l'argent, je joue au poker.
C'est totalement...
Ok, c'est Pierre.
D'accord.
Ok.
Non, alors justement... C'est pas Pierre, c'est un mec qui s'appelle Dorian.
Oui.
Ah oui, ils ont pas.
Qui joue plutôt. Mm-hmm. Voilà. Mm-hmm. Donc et Dorian me fait rencontrer Pierre, Flavien Guénan.
Ah bah tiens.
Et je me retrouve en coloc avec Pierre et Flavien, quoi.
Oh là là, bah quelle belle maison.
Et ils t'ont mis au poker.
D'un ancien, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Mm. Ouais, ouais.
Et qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas poussé au-delà, bien évidemment, de ta carrière de grand coach?
En toute humilité, le niveau déjà. D'accord. Parce que ça demande, pour gagner régulièrement, il faut déjà beaucoup jouer, il faut bien jouer, et puis il faut bien gérer aussi. Il faut bien gérer son argent, bien gérer son temps. Et puis j'ai toujours été bien content d'avoir mon activité principale d'entraîneur à côté. Et voilà, c'est ce qui me semblait le plus. Il n'y a jamais eu vraiment d'hésitation. entre les deux. J'ai la chance d'adorer mon métier, d'adorer le jeu du tennis aussi. Et je sentais pas le besoin de prendre l'envol dans une carrière de joueur.
Alors justement, tu parles de carrière, il paraît que tu as une magnifique carrière, une espèce de don. Est-ce que tu pourrais nous faire éventuellement l'imitation de Omar Da Francesca? Il paraît que tu l'imites très bien.
Vous savez que je me suis échauffé et tout avant, quoi. J'ai fait mes gammes et tout.
Vas-y.
Eh, Moundir, je comprends pas. Si tu me parles de Vegas, tu veux amener les caméramans, faire le montage, faire. À un moment donné, tu vas ici pour jouer aux cartes. 2, 4 cartes, 5 cartes s'il faut. Mais Moundir, tu peux pas me dire, tu vas faire encore un reportage dans la tête d'un Vegas, je sais pas quoi.
Bien joué, Steve.
Il te l'a dit, Daniel. Ouais.
Bravo. Et dis-moi, Slimane, t'as déjà des gains en live. Tu vas avoir néanmoins maintenant, surtout si tu te mets à suivre Warszawa sur le circuit, tu vas avoir plus du tout de temps pour aller faire des tournois en live, non? Tu vas juste être un joueur
C'est ça. Je regarde de temps en temps les programmes de certains festivals, les trucs et tout, mais c'est... Non, c'est ça arrivera si voilà s'il y a une semaine qui se décante, qui tombe bien, mais non, j'ai plus trop le temps. Oui. Malheureusement, parce que j'aimais bien quand même aller jouer un peu.
Parce que là,
Marrakech d'ailleurs.
Ah, t'as joué là-bas?
Ouais, il y a quelques années. Uh-huh. Il y a quelques années, j'avais joué là-bas. Uh-huh. Je suis allé à Dublin, bien sûr.
Oui.
Voilà, j'ai joué quelques tournois. Bah. On se chauffait à l'époque. Et puis Flavien faisait les commentaires, Pierre jouait aussi. Il n'y avait plus personne à la maison, il fallait bien que je bouge aussi, quoi.
Et là maintenant, tu es complètement avec Warszawa, c'est-à-dire sur le circuit chaque semaine. Là, donc, vous faites Birmingham, vous allez enchaîner Wimbledon. C'est tout le temps toi qui es avec elle?
Non, c'est Jean-René aussi qui s'en occupe, qui la connaît depuis très longtemps. Mm-hmm. Disons qu'on partage. On partage un peu le temps passé, soit en tournoi, soit aux entraînements.
Et donc, ça veut dire que quand tu n'es pas sur le circuit, tu retournes à l'académie?
Alors, il y a un groupe de juniors aussi, parce que le niveau est quand même assez bon au centre. Donc, il y a un groupe de juniors aussi. Et je suis aussi les juniors qui jouent, qui ont joué Roland, qui vont venir jouer. C'est Roehampton, un tournoi sur gazon juste avant. Mm-hmm.
Donc, c'est quoi le nom de l'académie? Le nom m'échappe là. Entre... De Jean-René Lisnard.
Elite Tennis Center.
Ah oui, okay.
C'est un centre. Mm. Ouais, c'est un centre d'entraînement. Voilà.
D'accord. Et pas loin, il y a la All-In Academy aussi. C'est encore autre chose.
C'est ça. Okay. Ouais, c'est ça. Bah, dans un périmètre de 25-30 km, il y a Mouratoglou.
Et encore plus loin, il y a celle de Mouratoglou. Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Ok.
Ouais.
Très bien, Slimane. Bah écoute, merci beaucoup. Bravo,
merci,
à
Slim.
Toi.
Merci à vous.
Au top.
Merci à vous.
Tu vois, bientôt, tu sais qu'il va à Wimbledon. C'est un grand moment quand on va à Wimbledon.
T'es déjà parti à Wimbledon, ouais, Daniel?
C'est extraordinaire.
Il ouais. y a un truc que t'as pas fait, toi, dans ta vie, sérieux?
Je sais pas. Bah, ce que j'ai pas fait, c'est être 15 au tennis. Donc, s'il peut m'aider.
Ouais, mais encore pour alors.
Avec plaisir.
Non, ah ouais. Il peut m'aider, mais je suis redescendu là, avec le nouveau système de points. Là, j'ai pas
T'es
joué
combien
pendant...
là
bah, je suis redescendu parce que tu sais, quand tu fais plus de tournois maintenant avec le nouveau système de. Tiens, si tu peux appeler la Fédé et leur dire que ce système c'est de la merde aussi. Parce que là, je suis redescendu 15-3 avec leur histoire parce que j'ai pas joué pendant un an à cause de blessures.
T'embrouilles pas, Simon.
Et voilà, donc là maintenant il faut que je remonte, il faut que j'en gagne les points. Ça va pas être simple.
Il faut matcher maintenant, ils encouragent. Ils encouragent
voilà, et en fait, ils ne font matchs, que matcher même. Et quand t'as pas le temps, bim, après tu descends et c'est une forme un peu d'injustice. Voilà, mais bon, j'avais Steph Matteux comme coach, c'était déjà pas mal, mais je ne le voyais qu'une fois
c'est
par
pas
an.
Mal. C'est
oui,
pas
mais
mal,
une fois par an, c'est pas assez. Voir un coach une
c'est
fois par
assez.
An.
C'est pas assez.
Une fois par an, c'est un peu compliqué.
Ouais.
Oui.
Bon, si tu passes à Paris, Slimane, je prends 2-3 conseils.
Ouais. Avec plaisir.
Yes.
Allez, bonne fin de tournoi.
Salut, champion.
Et à très bientôt.
Merci beaucoup.
La win.
À bientôt, bon courage. Good luck. Yes, vamos.
Allez, ciao. Nous on revient dans un instant avec l'histoire de la semaine dont on vous parlait tout à l'heure.
Ah oui,
fantastique.
Ah oui, c'est le dossier du jour. Ciao.
RMC Poker Show.
Daniel Riolo et Moundir.
Troisième partie du RMC Poker Show, c'est le moment de l'histoire.
Oui.
Bon, on va pas dire l'histoire de la semaine parce que si c'était l'histoire de la semaine, ça veut dire que chaque semaine on aurait une belle histoire. Et dès comme ça, on en a pas chaque semaine, donc on va dire l'histoire de l'année.
L'histoire de l'année, bah oui.
Ouais. Enfin, histoire de l'année, sauf qui sera remplacé par Moundir gagne un bracelet.
Oh putain, mais t'imagines.
Parce que ça, ce sera la vraie histoire de la semaine. Donc après, on relèguera celle-là à quoi, je sais pas.
Écoute-moi, si je chope le main event, je vais voir le boss d'RMC.
Main event, c'est compliqué.
Non, mais écoute-moi. C'est
compliqué.
Non seulement je vais voir le boss d'RMC et je lui dis on fait une quotidienne sur le poker. D'accord ? Et si j'ai le bracelet ?
Ara Digne 40, c'est son pseudo.
Et ouais.
Et il est avec nous dans le RMC Poker Show.
Salut Ara.
Salut Ara.
Et bonjour.
Salut champion.
Bonjour, bah, champion de la chance complètement folle. je vais raconter le début et puis tu vas raconter ton histoire qui est complètement dingo. Ouais. As gagné cette semaine un expresso jackpot à 1 million d'euros. Oui. C'est une histoire folle dans la série un peu, bon, allez, on va dire Money Maker qui arrive au main event et qui gagne et qui arrive de nulle part. Toi, la particularité, c'est que ça t'est arrivé 2 heures après l'ouverture de ton compte sur Winamax et que, oui. Bon, on peut pas dire que le poker était très présent dans ta vie. Donc, bah, raconte-nous un petit peu, quasiment minute par minute, comment s'est passée cette histoire absolument incroyable.
On va dire que la soirée était un peu flash pour moi. Je passe la soirée avec des collègues qui font un expresso à 2 euros. Je fais perdre une partie à un collègue qui a joué un expresso et qui pouvait gagner je sais plus combien d'euros, mais une dizaine d'euros. Mm-hmm. Et un peu frustré, il s'énerve, on m'insulte comme quoi, mais on commence à me dire oui, je t'avais dit fallait pas jouer cette main. Moi j'ai toujours connu le poker en tant que jeu d'audace, un jeu d'argent certes, mais c'est un jeu où voilà, ça reste de l'audace et surtout de la chance. Pour moi, après, même s'il y a les deux mains qui me font gagner sur ma partie à moi sont exceptionnelles. Donc du coup, un peu frustré, je rentre chez moi et je crée mon compte, je dépose 50 euros, je m'amuse sur des expresso à 10 euros, 5 euros et je pop au bout d'une heure et demie la partie à 1 million. Et du coup, je la gagne d'une manière. J'ai re-regardé le lendemain. Hein. C'est à pas enseigner dans les écoles de poker à mon avis. Quoi.
Ara, il faut. On revient un petit peu en arrière. Tu lances un expresso à 25, ce que tu n'avais pas fait jusque-là. C'est ça?
Pour raconter un peu cette histoire, c'est que sur les 50 euros déposés, je m'amuse avec des expresso, des petits expresso. J'ai des sommes où je monte un peu, je redescends à 15 euros. Au bout d'un moment, j'en gagne 20 je crois c'est 1 à 10, je remonte à 35 et je me dis bon allez, de toute façon, il commence à être tard, le lendemain je travaillais.
Il était 1h30 du matin, faut le préciser.
Oui, entièrement. Et je venais de me faire couper les cheveux. N'ayant pas de voiture, c'est mon collègue qui m'a coupé les cheveux, à qui j'embrasse et je remercie de cette soirée.
La tondeuse
qui a déménagé. Ouais. Ah ouais. Qui me ramène. Je suis obligé d'attendre parce que j'ai pas la voiture. Du coup, il me ramène à l'opposé de ma petite ville là où je suis. Et du coup, sur la dernière partie, je me dis allez, j'envoie les 25. On va voir ce que ça donne. Au départ, j'y crois pas. Au départ, j'ai pas cru parce que bon, la partie, je connais le fonctionnement. J'aime le poker parce que c'est un jeu de réflexion, jeu de stratégie, de probabilité, et puis d'audace surtout. Enfin, avec ma partie à moi, je le vois comme un jeu d'audace. Et puis sur cette partie-là, je fais tomber le premier, le deuxième.
Mais quand tu vois le 1 million s'afficher, au niveau émotion, il se passe quoi dans ta tête? Ça frappe de tous les côtés. C'est comment tu te sens?
Je réalise pas trop. En soi, je réalise pas trop parce que je me dis, je fais une capture d'écran et je me dis, j'ai peut-être pas activé l'argent réel. Mais ma carte est passée. Je me dis non, c'est pas possible. Et puis je vois, je me dis, le troisième prend 80 000 là.
Le troisième c'est 80 000.
Ah ouais. Oui, mais c'est pour ça, c'est ce que je me dis. Je me dis 80 000, c'est incroyable. C'est-à-dire que moi, j'ai une situation où j'ai un parcours de vie compliqué. Je vis sur un terrain depuis un an et demi. Je suis à mon compte, j'ai ouvert ma société, je suis tatoueur depuis un an. Et on va dire que voilà, je roule pas sur l'or, mais je suis à mon compte, quoi.
Ouais.
Et je me dis, attends, 80 000, ça va me changer, quoi.
Je vois que le premier, je le fais tomber.
Oui, mais c'est une embellie à 10 fois 80 000, quoi. Donc,
le cœur y bat? Est-ce que tu transpires? Est-ce que le cœur y bat? Est-ce que...
Émotionnellement, je suis pas bien. Réellement, j'ai pas dormi de suite. J'étais, et même sur la main où je bluffe. Enfin, pour moi, c'est exceptionnel parce que moi, quand j'ai le roi valet et que je vois cette dame, et je dis c'est pas possible. Il y a la dame qui sort. Et puis je vois que je suis le premier de parole, donc j'envoie, je vois qu'il me répond. Et à la fin, je me dis c'est simple, c'est soit il a la dame ou l'as, ou alors il a une des paires à l'intérieur et je suis marron. Soit avec le pot qu'il y a, le mec se barre. Et si le mec se barre, c'est qu'il, voilà. Et j'envoie et je vois qu'il se barre. Là, je deviens je crois que j'étais le top stack des trois. Et je me dis là, faut. Je dis pas, voilà, j'étais pas prêt. Surtout le col sur lequel j'élimine le premier.
8, donc, du coup, 10 et 8.
Vas-y, raconte-nous. T'as en tête un coup qui fait. Vas-y, raconte-nous un coup complet si tu peux.
Bon, il y a ce coup qui est hallucinant que vous pouvez voir bien évidemment sur Wina. C'est-à-dire. Non, mais c'est c'est un coup qui vaut 800K.
Vas-y, on voit.
Donc, en gros, donc, il a 10 et 8. Donc, Ara a 10 et 8 de cœur. Il y a le mec qui chauve, d'accord. Donc en fait ça fait lim col chez Ara. Donc le truc ça fait 9 briques avec un valet, d'accord. Le mec fait tapis, Ara snap call avec 10 et 8, il a rien, d'accord. L'autre il avait 8.
Il a tirage quinte quoi.
Non mais c'est un collab,
je suis d'accord avec toi. Il a quand même une carte éventuelle qui peut le.
En bref, voilà. Il est devant avec hauteur 10 et il gagne avec hauteur 10.
Hein, et je le sors sur
il le sort avec il touche rien et l'autre était en dessous avec son œuf de dôme. Tu vois, je te jure, c'est hallucinant. Je t'en prie, vas-y.
Excusez-moi.
Non, je t'en prie, vas-y.
Je pense que c'est la main qui a énervé le plus de personnes. Enfin, pas énervé, parce qu'il a frustré. J'ai vu des commentaires.
Non, mais on s'en fout des commentaires.
Non, mais c'est que c'est important de le dire parce qu'il y a le moi, j'ai toujours pris le poker ça reste un jeu. Et il y a certes, bon, là, c'est une table à 1 million. Donc, je transpire, je coule des gouttes dans ma tête.
Ah bah tiens.
Mais en soi, j'ai posé 25 euros. j'étais en mesure de jouer cet argent. Et je me dis, si tu poses des questions, tu vois des réponses. Si j'étais prêt à jouer, j'étais prêt à gagner, j'étais prêt à perdre aussi. Mais du coup, j'y crois pas. Et non, surtout qu'il est lower stack. Donc je me dis, le mec va chercher à gratter des jetons. Après, j'ai pas de tête, j'ai pas de hauteur, j'ai même pas une paire, j'ai même pas. Donc je me
non,
dis,
mais on comprend que
ça se joue.
Écoute, on comprend que t'es déconnecté, qu'à ce moment-là, n'importe quelle personne, je te dis, même un pro qui cherche, je peux parler des pros des expressos, hein, qui enchaînent 40, 50 tables, que quand ils voient le million, bien évidemment, qu'ils ont plus la même tête. Et on peut comprendre que toi aussi, bien évidemment, avec ton parcours et que cette histoire exceptionnelle, que tu finisses par col avec 10 et 8, avec hauteur 10, je trouve que cette victoire, elle est encore d'autant plus méritée avec ce col hallucinant. Ouais. Hallucinant.
Oui. Non, c'est vrai. C'est vrai. Bah, il a l'air de dire aussi qu'il y a eu une part de gambling chez lui. Il a joué et il a décroché une sorte de miracle un peu derrière cette timbale.
Ouais,
Moi, je me suis toujours dit, je sais pas si je peux prendre le temps un peu d'étaler ou de parler un peu de ma vie.
Oui, vas-y.
Mais on va dire que j'ai pas eu un parcours de vie facile. Je suis passé par, je reste anonyme, mais dans le coin où je suis.
On habite à côté.
Ah ouais?
Eh oui. Je suis des Sainte-Marie de la Mer, moi, tu vois. Tu vois.
Eh ben oui.
Alors, avec ton parcours. Ce parcours, bien évidemment, qui t'appartient et qu'on comprend.
Ben je,
comment maintenant je tu
me
vois
suis
la vie
toujours dit, ben là, je en ayant les pieds sur terre, très réellement, parce que j'ai fait beaucoup d'aide sociale à l'enfance, foyer, famille d'accueil. Mm-hmm. Jusqu'à maintenant, j'étais sur un terrain, je dormais sur un terrain. J'ai un rapport à l'argent où je me dis, voilà, j'ai pas gagné 10, 20 millions. J'ai gagné une belle somme, certes. C'est une somme qui va me permettre demain de pouvoir faire les choses intelligemment.
De t'acheter un toit, déjà, peut-être?
Exactement. J'étais bien reçu. Je fais un bisou à ma banquière. J'étais pas prêt du tout. C'est-à-dire que j'ai le service presse qui me contacte le lendemain. Je souhaite garder mon anonymat. Donc voilà, même si ça a parlé. Et le souci, c'est que je réalise qu'un peu à ce moment-là. Je réalise pas, parce que le lendemain, je travaillais. Et en fait, je demande à ma cliente, d'ailleurs, à qui je fais un bisou.
Tu peux pousser sur le tatouage?
Non, pas du tout. Je lui dis, écoute, Caro, je pense pas qu'elle me reconnaît, je pense pas qu'elle écoute. Mais voilà.
Oui.
Je lui dis, écoute, Caro, je viens vivre un truc qui se vit rarement. J'ai juste besoin de temps. Laisse-moi le temps de... Parce que je me suis endormi à 5h. J'avais un rendez-vous à 10h30. Je lui dis, écoute, laisse-moi le temps. J'ai besoin de réaliser quelque chose. Le soir même, voilà. Là, j'atterris un peu. J'atterris un peu quand je...
C'est génial.
Quand je... Donc, j'atterris, voilà.
C'est génial. Sois heureux, mec.
Ara, bravo. Ouais, est-ce que tu veux rester avec nous pendant la tête d'un fiche? Tu veux jouer avec nous?
Ah oui, bah je suis dans...
Elle est gratuite, hein, c'est gratuit, hein, t'inquiète pas.
Ah ouais, bah...
Allez, c'est parti.
RMC Poker Show. Dans la tête d'un fiche.
Allez, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais on peut pas se quitter sans faire dans la tête d'un fiche.
Bah oui.
Mundir, tu vas être un petit peu le leader là.
C'est vrai.
Nous n'avons pas de pro, donc c'est toi
c'est
qui
gentil.
T'en rapproche le plus.
Leader
Ara et moi, on sera les fiches de cette histoire.
Allez, patron.
On a un fiche qui vient de gagner 800 000 et.
Exactement.
Et un autre qui a rien gagné. Voilà. Jérémy, t'as un petit problème technique?
Oui, ça y est.
C'est moi, j'arrive.
Vous m'entendez.
Voilà.
C'est mieux là.
Allez, c'est
oui,
parti.
Les amis, on va pas jouer à Las Vegas cette semaine. On va jouer au Maroc. On va jouer le Six Mix. On est en pré-table finale. 7 joueurs restants sur les 2736 au départ.
De l'oseille déjà.
On a un stack de 12 millions. Ouais. Au blind 300 000, 600 000, ce qui fait 20 blindes.
Ouais. Ah oui, 20 blindes, oui, quand même.
On est UTG. Et on ouvre Roi-Dame, Roi de carreau.
Magnifique.
Dame de cœur. On fait combien les amis? Je pose la question à chaque fois, mais ça va être assez standard.
Oui, voilà. Bah là, on est sur un début standard à ce stade-là de la compétition. Je fais un x2 et c'est parti.
On est UTG, hein, c'est bien ça.
On est UTG. Ah ouais, premier à parler.
Grosse force alors, ok.
X2. Ara, qu'est-ce qu'on fait? Tu fais x2 aussi?
Moi, j'avais envie de faire le. Moi, je mets tout. J'avais envie de faire le vrai fiche.
Ah ouais, donc toi, tu rejoues les expressions. En mode expression.
C'est génial. Moi, tu peux y aller. Hein.
Non, mais on va continuer le fiche. Non, comme monsieur Riolo.
OK. Nous, on a ouvert 1,3 million, un peu plus de deux fois. Tout le monde folle jusqu'à la grosse blinde qui va payer. La grosse blinde, je rappelle, elle a un énorme tapis. 26 millions.
D'accord.
Donc, elle nous couvre.
26 millions, elle est plus de deux fois nous, quoi.
Ouais, exactement. Elle est quasiment chip leader. Le pot fait 3,2 millions. Le flop vient 2 de carreau. Dame de carreau. 7 de pique, un bon flop pour nous.
Ah, on est pas mal.
Oh, magnifique.
Check de la grosse blinde, Daniel.
Oh, écoute, je continue. Là, pour l'instant, il n'y a aucune difficulté. Je continue.
Oui, pour l'instant, c'est assez souple.
Bah,
oui,
je continue mon action et je suis plutôt content.
Ah, bah, ouais.
Alors, là, il y a toujours l'idée que, comme il a un gros tapis, qu'il est de grosse blinde, évidemment qu'il peut avoir défendu avec des cacahuètes et qu'il peut nous faire un sale coup, d'où le c-bet pour peut-être stopper le coup dès maintenant après tout parce que si jamais il devait call, on serait presque obligé de se dire bon quoi, s'il est rentré avec as-7, qu'est-ce qu'il peut nous faire, moi avec 7 et 2 quand même pas, on n'est pas sur un guignol j'espère. Bref, c-bet.
C'est bête, combien le pot? Il fait 3,2 millions.
Un tiers.
Un petit peu plus d'un tiers même.
Un petit peu plus d'un tiers.
On est quand même à 7 restants, j'ai envie, tu vois.
Ah ouais.
Nous, on a roi, dame de carreau, ouais. Ara, et le flop, c'est 2 de carreau, dame de carreau, 7 de pique. Donc on est pas mal. Le pot, il fait 3,2 millions. Et nous, on mise un quart, un tiers du pot. Qu'est-ce que toi, tu fais?
Ah, mais moi, c'est. Alors, vous voyez, ça, c'est typiquement le genre de même. Là, vous parlez en millions, je sais pas si c'est euros, si c'est un jeton ou autre.
Non, non, c'est juste un jeton.
On n'est pas en cash, là.
Non, mais c'est pas.
Ara, t'as dégoupillé, là.
Ouais, je suis désolé. Mais moi, c'est typiquement le genre de main que j'aime, où j'ai tendance un peu à voiner et je cherche la couleur à la turn. Hein.
D'accord.
Donc,
alors après, je vais suivre Monsieur Riolo pour. Voilà, mais je.
C'est bien.
J'aime beaucoup Monsieur Riolo.
Le pot, il faisait 3,2 millions. Nous, on a fait 900 000 entre un quart et un tiers.
Ouais.
Et là, check raise en face à 2,4 millions. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il peut avoir comme genre de main? Sur quoi on le met? Daniel, tu penses quoi là? On est quand même embêté. Et on a top pair, on a le roi de carreau, mais ce petit check raise est pas très agréable.
Il y a deux carreaux au flop.
Et
nous, on en a un.
Et un troisième vient au turn.
Et
nous, on a le roi de carreau.
Et lui,
attends, on n'a pas vu la turn encore.
On n'a pas vu la turn.
Ah, pardon.
On n'a pas vu la turn encore.
Je voulais donner, pardon.
Merde.
Désolé, j'ai fait une erreur.
C'est pas grave.
Oh, l'erreur. C'est moi le fiche.
Bon, écoute, quoi qu'il en soit, c'est sûr que c'est un move totalement inattendu. Sur un tel flop qui fasse ça.
J'aime pas son raise, c'est trop cher.
J'aime pas du tout.
Il représente absolument pas le tirage flush.
Et là, à ce stade, avec son gros tapis, il se dit, va nous mettre la pression pour nous bluffer.
Il peut bluffer. Il peut avoir dame 10, avoir dame 10 suité, just call.
Est-ce qu'on va lui revenir dessus ou est-ce qu'on va juste payer?
Ah, je pense que moi, à ce moment-là, il nous reste 14 blindes derrière, 13 blindes. Quoi qu'il arrive, si tu colles là, faut que ça parte. je préfère que ça parte tout de suite, donc 2 millions, 2 millions 6.
C'est ce que j'allais dire. Là, c'est, ouais, là, c'est ou tout là, ou rien. Là. Ça,
bah, totalement.
Ou je m'en vais.
C'est
ou...
soit tu foldes, soit tu veux, tu GoPro, quoi.
Et du coup, Ara sera d'accord avec nous parce qu'il aime bien envoyer.
Ah ouais, là, tu GoPro direct. Là, on GoPro direct.
Je voulais dire au flop, hein, moi. Donc, top pair, tirage couleur. Moi, c'est typiquement le genre de main. Où... Et puis, j'aime pas trop les joueurs agressifs en face de moi.
Ouais, c'est donc,
le mec qui a tendance à le prendre pour mon ego.
Nous, on a juste payé. On a juste payé. Et il nous reste un tapis.
On va faire comme ça.
Il nous reste un tapis de 8,6 millions. Le turn 9 de carreau. Et la check de la grosse blinde. Celui qui nous avait check raise, il check cette fois-ci. Qu'est-ce qu'on fait derrière?
C'est impossible. Le mec.
Bizarre.
Là, ça veut un peu rien dire. Je comprends.
Il pose sa question.
Attention.
L'autre check. Bah là, le truc, c'est que nous, on a envoyé déjà tapis avant et que je suis retenté de le faire maintenant.
Oui,
quoi.
Oui. Parce que là, on joue la flèche par le roi, hein, c'est ça? Exact, le roi de carreau. Ouais.
Là, moi, je veux le refaire maintenant, quoi. J'ai père max, j'ai tirage flush quasi max.
Je crois qu'en 10 ans, je sais pas si je t'ai suivi, mais là, je te suis. Là, je te suis. Mm. Ah ouais, je lui mets tout dans la bouche. Hein.
Tu mets tout, vous mettez tout.
Tout dans la bouche.
Mm. Et ben nous, on a décidé de check back.
Ah oui.
River valet de carreau.
Wow.
On a flush quasi max. Mais là, notre adversaire, il nous reste 8 millions ou 6. Il va avancer 5 millions 2.
Mais c'est n'importe quoi.
Au milieu.
Est-ce que vous pouvez me rappeler le flop?
Nous, on a Roi-Dame avec Roi de carreau, Dame de cœur. Le flop, 2 de carreau, Dame de carreau, 7 de pique. Turn, 9 de carreau, River, Valet de carreau. On a la flush, Roi.
Jérémy, en fait, dans cette main, il y a très peu de réflexion.
Soit bluff, soit il est max.
Soit quoi qu'il en soit.
Ah bah oui. Donc il peut être max.
Oui, mais avec l'as de carreau.
Comment ?
Donc avec l'as de carreau.
Avec l'as de carreau.
Avec l'as de carreau. Donc il aurait défendu avec as 2 ou as 7 et il se tape tous les carreaux. Il nous bat. On a le roi. Dans quel monde on peut folder ça ?
Impossible que tu foldes.
Dans quel monde on peut folder ça ? Donc évidemment, on ne folde pas. Et s'il retourne l'as, au revoir monsieur, je vais manger quelque chose.
Ah oui, je mange un.
Donc on call, bien sûr.
Ara, on paye ?
Évidemment, qui va folder ?
Moi, j'étais au line au flop.
Bien sûr. On a fini par payer, mais après une grosse réflexion. Et en face, il y avait Romain Lewis. Qui avait roi 10 avec le 10 de carreau, qui avait fait quinte et qui nous mettait jamais sur le roi.
Sur le roi de carreau.
De carreau qui a halluciné.
Moi j'avais dit dame 10.
Et qui pensait vraiment prendre le coup, vu la réflexion du gars. Du check.
Ouais, voilà, donc on a gagné.
On a gagné le coup quand même.
Voilà, et on passe 6ème, on prend un palier.
Ara, merci beaucoup d'être venu dans le RMC Poker Show.
Sois heureux, mec.
Ton histoire, maintenant.
Bonne chose.
Toi qui, on peut le dire, a quand même pas une vie facile jusque-là. Le destin t'a souri avec cet expresso à Lyon. Bravo, on t'embrasse, à très bientôt.
Belle histoire.
Les amis, encore une émission avant votre départ.
Bah ouais, Dan. Tu vas nous mentir.
Deux, Jérémy, pourquoi tu fais deux avec les
mecs? Ouais, deux émissions.
Encore deux avant qu'on départ.
Pourquoi?
Vous allez partir ou quoi cette année?
Bah écoute, qu'est-ce que tu veux?
Lui sera parti pour la dernière.
Bonne semaine.
Salut les gars,
ciao.
RMC met carte sur table.
C'est le RMC Poker Show. RMC Poker Show avec Winamax, site de poker en ligne. Winamax, le plus important, c'est de gagner.